Bonjour Nathalie au carré, je suis étudiante à AgroParisTech et je souhaiterais réagir sur les transformations que connaît aujourd'hui la formation agricole en France. Alors qu'AgroParisTech se prépare à son déménagement sur le plateau de Saclay, qui a conduit d'ailleurs à l'artificialisation des meilleures terres agricoles de l'Île-de-France ainsi qu'à la vente du site de Grignon, je vous invite à nous rejoindre demain, jeudi 30 septembre à 14h, devant les locaux de la Direction Générale de la Recherche et de l'Enseignement, à Paris, pour une manifestation contre le projet de vente de Grignon. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, Valentin, professeur de lettres modernes et d'histoire-géographie à Aix-en-Provence. J'aimerais savoir si ce serait possible de réaliser une émission sur l'agroécologie et revenir sur le concept d'écologie des sols, c'est-à-dire l'étude de la formation et de l'évolution des sols. Il me semble par ailleurs que penser le système agroalimentaire, c'est d'abord réfléchir au support écosystémique de production. Merci à vous.
Bonjour la Terre au carré, Sainte-Mac Bruno de Beauvais dans l'Oise. À Beauvais, on va artificialiser plus de 200 hectares de terres agricoles pour faire une zone commerciale de plus. Dans l'agglo du Beauvaisis et le Pays de Bray, on continue d'arracher les haies et de faire du lotissement veux-tu en voilà. Au revoir.
Bonjour, je suis Françoise et j'appelle de Montreuil en Seine-Saint-Denis. À l'occasion de la Journée mondiale des animaux 2020, la ville de Montreuil annonçait sa volonté d'affirmer une place équitable de l'animal en ville. Afin que chacun puisse trouver un équilibre pour cohabiter ensemble et sensibiliser les publics sur les enjeux sociétaux et environnementaux liés à cette question, le plaidoyer pour l'animal sera présenté lundi 4 octobre 2021 à 17h30 à la mairie, en présence des élus et de Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue. Venez nombreux, merci.
Bonjour, c'est Michel dans les Pyrénées-Orientales. Je prends au vol l'émission sur la sobriété qui me parle énormément. C'est un choix de vie que j'ai fait très très jeune parce que la conscience environnementale et climatique m'avait touchée très très tôt. Je vis très simplement, j'ai appris à me nourrir de plantes sauvages. Bien sûr, c'est un privilège parce que j'habite en pleine nature, même très sèche. Mais il n'empêche que j'aimerais justement, quand il y a des manifs, partager le fait qu'on puisse avec peu vivre très très bien et très heureux et en privilégiant les relations humaines, le lien, le social, la créativité collective, l'humain au cœur, quoi. Il n'y a que ça qui nous sauvera. Je vous souhaite une bonne journée où vous êtes. Ciao, ciao.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Avec la pandémie et le dérèglement climatique, ces dernières années nous ont fait brutalement changer de monde. Des bouleversements étaient déjà en cours, mais ils ont subi une accélération qui a complètement rebattu les cartes de nos existences. Nous avons changé individuellement, collectivement, et nos hiérarchies personnelles ont largement été bousculées. Mais dans quel monde sommes-nous entrés exactement? Quel cap a pris la société? Et pourquoi nos mentalités et nos comportements ne sont plus les mêmes? Avec les enjeux écologiques et numériques en toile de fond, c'est une nouvelle civilisation qui serait même en train de s'annoncer. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Ces questions, ce sont celles que vous abordez dans votre dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est sorti avant l'été aux éditions de l'Aube. Vous êtes sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF-CNRS. C'est le centre de recherche politique de Sciences Po. Et votre livre parle donc des transformations profondes que nous sommes en train de vivre à toutes les échelles de la société. Et c'est l'occasion donc d'en parler avec vous cet après-midi dans la Terre au carré, avec les messages bien sûr des auditrices et auditeurs qui nous rejoignent. Franceinter.fr, vous avez également les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales. On se retrouve Jean Viard dans un instant. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au programme.
Alors je suis allée dans les Yvelines chez Hectare qui se présente comme le plus gros campus agricole au monde et que possède pour moitié un certain Xavier Niel.
Eh bien nous irons avec vous sur place dans un instant. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Charles de Cilia avec Leonardo Cane pour les réseaux sociaux et aujourd'hui Ludovic Asselot à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré, sur France Inter.
On va partir en Bretagne, justement à cause du virus, donc on voulait quitter Paris, parce qu'on pensait que c'était pas forcément une bonne idée d'y rester, et on voulait pas être confiné à cet endroit-là, donc...
On est deux dans 25 mètres carrés, donc pas ouf. La campagne nous attend.
On a prévu une petite quarantaine, enfin une petite quatorzaine chez eux au dernier étage, donc bon, on va voir.
On part à Bordeaux, au bassin d'Arcachon, exact. Confiné dans un appartement de 30 mètres carrés, c'est pas très agréable.
Voilà, mars 2020, premier confinement. Est-ce que ces Parisiens qui quittaient Paris justement pour la province, Jean Viard, marquent finalement le début de la révolution que vous évoquez dans votre ouvrage ?
Il y en a 430 000 qui ont quitté Paris. En gros, c'est le quart, hein, puisqu'il y a 2 millions d'habitants. Et 82% des Parisiens rêvent de quitter la ville. Donc c'est énorme. Mais après, c'est un rêve. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas autant qu'ils le feront. Mais disons que, si vous voulez, de plus en plus, la ville est le lieu de la jeunesse. Au fond, à Paris, il y a jusqu'à 30 ans, bon, c'est un lieu. Paris, c'est vrai pour les autres grandes villes. Hein. À Paris, la majorité des logements sont des logements d'une personne. Hein. Donc, faut bien voir, c'est la ville, les grandes villes sont prises en main par la jeunesse, en fait. Et puis après, effectivement, en gros, quand les gens ont des enfants, 30 ans et 4 mois pour un bébé, 29 ans pour un CDI en moyenne, le couple se stabilise autour de 30 ans, en général, c'est le moment où on veut s'en aller. Essentiellement vers des villes moyennes, des petites villes, oui. Le long des lignes de chemin de fer, et là où il y a du haut débit. Il y en a aussi qui vont à la campagne. Mais je veux dire, on n'est pas en 68. Moi, je suis un ancien baba, on n'est pas retourné à la campagne parce qu'on était contre la ville, contre le capitalisme, tout ça. C'est un mode de vie de la métropole qui s'étend dans l'espace vis-à-vis des petites villes.
Mais est-ce que c'est un moment d'accélération aussi, des bouleversements en cours, ça,
C'est-à-dire, si vous voulez, on vit une immense rupture culturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. On va mettre du temps à la comprendre. Si vous voulez que 5 milliards d'hommes s'aient fait la même chose, se soient enfermés chez eux pour se protéger, qu'ils aient mis des dizaines de milliards pour inventer un vaccin, dans l'histoire de l'homme, c'était jamais arrivé. Donc, l'immensité de la rupture. Et en plus, on s'est enfermé pour protéger les moins productifs d'entre nous. Les anciens, les plus lourds et les malades. Donc, c'est d'un point de vue humaniste, c'est fascinant. On n'a pas protégé les enfants, on n'a pas protégé les usines, on n'arrêtait pas de dire qu'on était dans l'argent, on pensait que... Non, les gens se sont arrêtés pour protéger les anciens. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue humaniste, c'est un geste extraordinaire. Donc, tout ça, on va mettre du temps à le penser. Là, nous, ce qu'on vit pour le moment, c'est d'une part les contraintes, le pass sanitaire, tout ça. Et puis, il y a un million de couples à peu près qui se sont séparés ou qui sont en train. Il y a à peu près 2 ou 3 millions de gens qui sont en train de déménager. Vous voyez, c'est des phénomènes qui sont importants. On est 66 millions, c'est
mais
pas non
qui
plus.
Déménagent parce que la situation fait qu'ils ont décidé de partir ou ils l'auraient fait de toute façon?
Alors certains, sans doute, ça s'accélère. Vous savez, c'est des décisions qu'on prend pas tout de suite. On a des enfants, les échanges d'école. Moi, j'aurais tendance à dire ceux qui en parlaient sur l'oreiller avant la pandémie l'ont déjà fait. Ouais. Et ceux qui ont commencé à en discuter maintenant, on va voir. Vous voyez. Mais en gros, c'est aussi jardin, maison. Ça va vers des villes un peu moins attractives. C'est pas Nantes, c'est pas Rennes, c'est pas Bordeaux. D'abord parce que c'est plus cher. Donc ça va être le bord de Loire. Mais ça peut aller vers Reims pour prendre Paris. Hein. Ça peut aller vers Laval. Ça peut aller vers Angers, par exemple. Ouais. Mais vous avez la même chose en Provence, avec Cavaillon, Draguignan, pour prendre d'autres exemples, pour ne pas faire trop parisien. Donc au fond, c'est des villes de deuxième niveau, mais qui sont des villes structurées par un bon collège, un bon lycée, un hôpital et un train.
Oui. Comment vous qualifiez l'époque que nous vivons finalement? Parce que vous dites, on ne réalise pas vraiment le bouleversement qui est en cours, il y a une révolution qui est écologique et numérique, on y reviendra, mais vous, de votre point de vue de sociologue, quel mot vous mettez sur ce qu'on vit en ce moment?
Mais on était à la fin des révolutions industrielles. C'est-à-dire que les révolutions industrielles nous ont construit un commun d'affrontement, on va dire, entre le capital et le travail, pour aller très vite, où on discutait comment on donne plus aux retraites, etc. Et puis à un moment, on a construit une société de protection sociale extraordinaire, on a tous droit à la santé, l'éducation, la retraite, etc. On a encore des écarts de revenus. Enfin, en gros, on a tous droit à l'école, tous droit à la santé, quand même les deux droits fondamentaux, etc. Au logement, enfin, tous ces droits ont été mis en place. Et au fond, les sociétés n'avaient plus de chemin, parce qu'elles étaient au bout. Et au fond, c'est là où sont les populismes. Les populismes, c'est la révolte des milieux populaires qui dit, mais il n'y a plus de direction. Bon, avec le sentiment que rien ne change jamais. Parce qu'avant, quand on avait la retraite à 60 ans, quand on avait les 40 heures, quand on avait congé payé, on avait l'impression que quelque chose avait changé. Mais essayez de me dire sur les 25 dernières années, comme ça, de manière claire. Et au fond, on était au bout. Et là, on a passé un cap. Parce qu'on a eu peur. Parce qu'on a la sphère de l'intime a été traumatisée. 25-30% des gens sont déprimés, en maladie. Il y a 10% des femmes à peu près qui ont été battues. Enfin, j'ai vu les chiffres. Ils veulent ce qu'ils veulent, mais c'est énorme, quoi. Et donc, si vous voulez, d'un coup, en ce moment, les gens souffrent dans l'intime. Regardez les bagarres dans les matchs de foot. Aux États-Unis, les meurtres ont augmenté de 30%. Parce qu'on est énervé, on est malheureux, les gens s'engueulent. Et en même temps, on a besoin de commun, on a besoin de se voir, de se parler, de faire l'amour, etc. Donc, on est dans cette rupture-là, si vous voulez. Mais sur le fond, ça marque un nouveau commun. C'est-à-dire que moi, je pense, si vous voulez, c'est mon argument, mais que on a compris que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature. Alors, la formule exacte, c'est l'homme comme maître et possesseur de la nature, pour faire des citations justes. Mais donc, si vous voulez, ça veut dire que, au fond, le nouveau commun, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que l'humanité va pouvoir sauver du réchauffement climatique. Et donc, à nouveau, on peut faire de la politique. On peut s'affronter, les décroissants, les scientistes, les technologiques. Pour qu'on fasse de la politique, il faut qu'il y ait une toile de fond à partager et des affrontements sur la stratégie.
Et vous dites, on entre dans une période de débat qui va durer assez longtemps. On en reparlera avec vous dans un instant.
Jean Viard, vous dites, on a passé un cap. Est-ce que c'est vraiment un cap ou ça peut être un soubresaut d'un cycle qui va finalement recommencer un peu plus tard? Sans parler de retour en arrière, mais juste, en fait, voilà, on a quelque chose qui s'est passé, puis les choses vont reprendre parce que c'est comme ça que ça se passe.
Elles vont pas reprendre parce que l'horizon, c'est la mort. Et que si vous voulez, vous voyez, quand on a fait la révolution industrielle, on ne savait pas combien de temps il y aurait, mettons, pour le 40 heures. Ça pouvait être 50 ans, 10 ans ou un siècle. D'ailleurs, ça a pris quasiment un siècle, en réalité. Mais là, on n'a pas un siècle. Donc, si vous voulez, on est dans une situation de transformation du climat sur la planète qui nous donne un horizon extrêmement court, en réalité. Donc, le problème, c'est plutôt comment gérer la panique qui monte dans la jeunesse. Comme vous voyez, la majorité des jeunes pensent que l'humanité va disparaître. 30% des jeunes filles disent qu'elles ne feront pas d'enfants. Donc ce sont des chiffres massifs. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en feront pas vraiment.
Des jeunes filles françaises, pardon.
Quoi?
Les 30% des jeunes filles françaises.
Oui, bon. Mais c'est pour dire, si vous voulez, c'est ce qu'elles déclarent. Donc je ne dis pas que ça va être vrai. Mais j'en tiens compte. Je me dis qu'effectivement, il y a un sentiment qu'il y a un mur. Et que ce mur, il est très haut. Et qu'il y en a qui pensent qu'on ne va pas pouvoir le sauter. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est nouveau par rapport aux périodes précédentes. Ouais. C'est que le temps. C'est pas nous qui décidons.
Mais vous, vous êtes d'un optimisme raisonnable, dites-vous.
Mais
donc,
parce que
il y a quand même quelque chose qui se passe en ce moment avec ce que vous appelez la grande pandémie, qui ouvre des perspectives. Et c'est cet aspect-là que vous souhaitez mettre en avant.
Oui, parce qu'on a augmenté nos chances de nous en sortir. Pourquoi? Parce qu'avant, moi, je triais mes poubelles, comme la plupart d'entre nous. J'avais changé mon diesel pour une voiture essence, etc. Mais entre ça et la fente de la banquise, j'avais quand même l'impression que c'était pas à la même échelle. Et là, on s'est rendu compte, qu'on pouvait tous sur la Terre changer nos comportements. Et qu'on pouvait s'écouter à 5 milliards, et qu'au fond, on peut avoir des affrontements politiques entre les totalitaristes chinois. Alors, les populistes ont été nuls, il faut le dire. Ils sont pas dans le film, les populistes. Ouais. Le dialogue, c'est entre démocratie et totalitarisme. Et on ne pourra pas avoir les mêmes affrontements de la guerre froide. Quand on dit retour de la guerre froide, attendez, l'enjeu principal, c'est le réchauffement climatique. Donc, on peut être, là, il faut qu'on soit d'accord. Donc, la guerre froide, il n'y avait rien en commun. Donc on n'est pas dans la même situation. Parce que le commun principal, c'est ça. Après, on va pas avoir le même chemin. Et y compris en ce moment, un des grands enjeux, c'est que tous les pays du Sud, ils regardent. Qui est le plus efficace? C'est les Chinois ou c'est les démocraties? Au début, c'était les Chinois. Les démocraties sont assez remontées à la côte. Alors tout le monde doit truander un peu sur les chiffres, etc. Mais donc il y a plein de pays qui disent, il vaut mieux choisir le modèle chinois ou le démocratique. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour survivre face au réchauffement climatique? Donc ça aussi, ça crée toute une nouvelle période politique.
Un des enseignements aussi de cette pandémie, c'est que, vous le disiez, finalement, on a réussi à nouveau à faire corps collectivement. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné quand même beaucoup, et ça, vous pensez que ça va rester?
On a recréé un commun. Alors d'abord, on a revalidé la famille. Une famille étroite, une famille où il y a eu des conflits, donc une partie des familles ont explosé, une autre partie pas. Donc ça, c'est important, parce qu'avant, la famille, c'était un peu ringard. On a revalorisé le travail. Parce qu'en gros, les gens qui étaient payés à pas travailler, ils étaient malheureux. Alors on pourrait dire, t'es payé à rien foutre, t'es content. En plus, ça n'avait pas le délai. Si on avait dit, t'as un an de vacances, c'est pas pareil. Et donc, si vous voulez, le travail, la famille, l'école a repris une place centrale. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants... Alors en plus, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty au milieu qui nous a rappelé que le débat sur la laïcité est un enjeu central. Mais plus que ça, on s'est rendu compte que l'école, c'est pas là où on dépose les enfants pour aller vite faire nos affaires. C'est pas un entrepôt. D'abord, on s'est rendu compte qu'enseigner, c'était difficile. Parce que tous ceux qui ont essayé se sont rendus compte qu'ils étaient mauvais. Donc d'un coup, on se dit, mais les enseignants, ils sont bons. Et puis d'un autre côté, ils ont un métier. Et puis d'un autre côté, on s'est rendu compte que c'est la maison des enfants. C'est-à-dire, les enfants n'avaient pas envie de ne pas aller à l'école. Et ça aussi, ça remet l'école au centre de la société, ce qui est toujours une bonne nouvelle.
Allez, des messages auditeurs, Camille.
Oui, deux messages, notamment un qui parle de néolibéraux bourgeois qui ont voulu d'abord se protéger face à un virus inconnu. Mais quand les riches, dit ce message, ont compris que ça n'était pas si grave pour eux, on est reparti dans le business as usual pour détruire la planète. Et Patrice ajoute derrière, si le public est de plus en plus averti de l'importance des questions écologiques en particulier, je ne crois pas un seul instant qu'une majorité de citoyens soit prête à passer de la conscience aux actes. Les organes de l'économie libérale sont toujours là pour les faire acheter du superflu, se déplacer coûte que coûte, bref, consommer encore et encore. Donc il y a encore des gens qui pensent que ce mur pourra...
Ils ont le droit de penser, ils peuvent avoir raison. Moi, je pense que c'est pas exact. Maintenant, le discours, y compris sur la société libérale, etc. Il y avait Madame Rousseau tout à l'heure sur la même antenne. Ils ont tout à fait le droit de tenir ce discours. Mais si vous voulez, moi, je pense qu'il s'est passé une rupture culturelle et qu'on va mettre du temps à voir les conséquences. On peut dire, on voit pas aujourd'hui. Mais attendez, quand 5 milliards d'hommes ont le même comportement, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'homme. On a sauvé 100 ou 200 millions de vies au minimum, sans doute plus. La grippe espagnole avait perdu 100 millions de vies. C'est le diagnostic final. Il y avait moitié moins d'humains et on n'avait pas de système de soins. Donc on est face à une... On a sauvé... Moi je dis, Hitler a pris 50 000 vies, Staline a pris 50 000 vies, on a sauvé au moins 200 millions de vies.
50 millions.
Donc on a sauvé au moins deux fois plus de vies que n'en ont pris les totalitarismes. Il faut avoir des ordres de grandeur pour se demander comment ça va imprégner nos consciences.
Jean Viard, la révolution que l'on attendait est arrivée et c'est Terre au carré cet après-midi.
J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit, je voulais danser. Je sortais en douce, les cheveux crêpés. J'avais 14 ans et j'aimais danser. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Longtemps super excité, on faisait du stop sous le ciel étoilé. On était heureuses et très maquillées. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber.
C'était la voix de Barbara Carlotti sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Et ça, ça fait partie des petites magies de notre nouvelle vie. C'est-à-dire qu'on dépose les enfants à l'école et à 9h, on est là tout seul.
Ah, trop bien.
Ou alors dans l'eau et...
Et vous le faites tous les jours ?
Pas tous les jours, non. Mais le premier jour, on l'a fait, mais on avait l'impression que c'est genre d'avoir 18
ans. Que c'était pas bien.
14 ans et d'être genre, ah, vas-y, on a séché les cours. C'était... Et on était comme des dingues. On était dans l'eau, là, il y avait des vagues.
Quand j'entends Christine, j'ai l'impression que déménager l'a rendue plus heureuse, près de la mer qu'elle aime et entourée d'arbres. Pour autant, je me demande si ce n'est pas un peu illusoire. Est-ce que vraiment, la vie peut se voir améliorer simplement en changeant d'endroit ? Et est-ce que notre bonheur dépend de là où on habite ?
Alors ça, c'est des questions pour vous, Jean Viard, hein, qui sont posées dans ce podcast Émotion, dans un épisode sur le déménagement qui s'intitule « Pourquoi ça fait si mal d'aller vers son idéal ?» Alors, on l'a vu, hein, beaucoup ont fait cette démarche de changer vraiment de vie et d'aller chercher le bonheur ailleurs. Est-ce que ça marche à tous les coups ?
À tous les coups, non, ça c'est comme le mariage. Mais, non, mais je veux dire que si vous voulez, moi je suis allé à la campagne après 68. J'habite toujours là où j'ai vécu après 68, sur les modes de l'époque, communautaire, agriculture, etc. Bon. Donc il y en a qui peuvent trouver que c'est bien. Mais il y en a beaucoup qui sont repartis. Il y en a qui sont morts, parce que c'est paysan sans savoir faire paysan, etc. Bon, c'est violent aussi, ces transformations. Mais depuis, la population de la campagne se peuple. Paris perd 10 000 habitants par an depuis des années. Donc, si vous voulez, on n'a pas découvert ça. Parce que, donc, ce qui se passe, c'est que la ville a deux immenses extensions. La première, on va dire, c'est l'extension gilet jaune, pour faire vite. C'est-à-dire, le monde des lotissements. En France, il faut toujours se dire que 63% des Français ont un jardin. Il y a 16 millions de maisons individuelles pour 12 millions d'appartements. Donc, à Paris, ville, les gens se racontent que tout le monde habite dans des grandes villes avec des étages. Et non, la majorité des Français vivent au ras du sol. Bon, c'est important de rappeler ça. Et effectivement, donc c'est ça le mode de vie aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui vivent entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, vous avez des métropoles. Il y en a 8, 10. C'est quoi une métropole? C'est là où la toile numérique croise la densité des cerveaux du pouvoir. Les artistes, les intellos, les chefs d'entreprise, les politiques, etc. C'est ça, il y a 200 métropoles qui sont devenues les hubs numériques du monde. Et puis de l'autre côté, il y a 80% du sol, c'est des terres arables et des forêts. Donc là, avec un problème sur l'agriculture. Et au fond, c'est la base de la civilisation écologique, parce que se nourrir, produire de l'énergie, des vêtements, tout ça, ça viendra des forêts, de la campagne, de nouveaux modes d'organisation, la biomasse, etc. Et au fond, les gens habitent entre les deux. Entre la métropole et les terres arables et forestières. Et ce mouvement-là, il a le mouvement gilet jaune, c'est plutôt des lotissements ou du rural profond. Vous prenez des zones de la Haute-Marne, vous prenez les massifs. Et les gens qui ont quitté la ville, là, qui sont en train de le faire, au fond, c'est des gens, j'allais dire, qui ont une culture résidence secondaire. Ils sont en train d'inverser. Ça va être la ville secondaire et la résidence principale. Donc, ils vont habiter Pays de la Loire, ils vont habiter Mortagne-en-Perche. Ils vont habiter dans des lieux dont ils vont incorporer l'identité à leur propre identité.
Mais ça, c'est des gens qui ont de l'argent, quand même.
Ceux qui se déplacent en ce moment, c'est souvent des couches moyennes. Mais vous savez, si vous avez un petit logement à Paris, vous vous retrouvez propriétaire de 200 mètres carrés à Tours. C'est-à-dire que le déplacement géographique fait que vous devenez riche, j'allais dire. Vous allez à Carnac, une maison à Carnac, Phoenix, payez 500 000 euros par un Parisien. Parce que pour lui, c'était pas cher.
Oui, mais il n'y a pas que les Parisiens, justement.
Non, mais ce qui se déplace en ce moment, ce sont les gens des très grandes villes. Donc c'est aussi vrai à Lyon, c'est aussi vrai à Marseille. Et vous avez aussi 10 000 Parisiens par an qui vont à Marseille. Parce que Marseille symbolise pour eux la ville festive, déconnante, créative. Mais des Parisiens hyper diplômés, des jeunes. Vous voyez, vous avez tous ces mouvements. C'est pour ça qu'il ne faut pas être caricature. C'est pas un retour à la terre. C'est une autre façon d'utiliser le territoire. Et ces gens reviennent à la métropole, souvent toutes les semaines. Faisons attention, c'est pas des départs définitifs.
Il y a trois jours, le journal Le Monde publiait une enquête sur justement le retour, le grand retour, il titre comme ça, vers les petites villes, en expliquant que le phénomène alimente la hausse des prix de l'immobilier dans beaucoup de communes, y compris Marseille d'ailleurs, et génère beaucoup de frictions avec les locaux.
Ben évidemment.
Donc,
mais bien sûr. Mais attendez, si vous croyez que le monde peut être paradis pour tout le monde en même temps, non.
Mais par rapport à l'humanisme dont vous parliez tout à l'heure, etc.
C'est pas l'humanisme, c'est la rupture historique dans laquelle on est. Les gens se déplacent, ça fait augmenter les prix, ça arrive. Ça veut dire aussi qu'il y a des locaux qui récupèrent plus d'argent, excusez-moi. Parce que s'il y a des gens qui achètent, il y en a qui sont revendeurs. Bon. Donc ça, c'est vrai. Et donc ça crée une société homogène. Ça oblige aussi les élus locaux à apprendre des politiques publiques nouvelles. Parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se disent comment je protège les enfants locaux pour qu'ils aient le droit d'habiter. Donc, si vous voulez, il y a des endroits où on le fait depuis longtemps. Moi qui habite en Provence, il y a longtemps que les mairies produisent des systèmes de logement pour que les gamins du pays restent là. Parce que pour ça qu'il ne faut pas faire de caricature. Il y a plein d'endroits en France où les prix ont déjà explosé devant l'immigration. La population rurale augmente de 10% par an depuis au moins 20 ans. Donc, si vous voulez, le mouvement est accentué, mais il n'est pas nouveau.
Le télétravail, d'ailleurs, ça va être un nouveau modèle aussi dans ce bouleversement en cours, là, ou pas ?
Oui, parce que moi, ce que je pense, vous voyez, c'est qu'on va vers une société locale et de livraison. En gros, parce qu'il y a 21 millions de personnes qui sont livrées par Amazon, plus tous ceux qui sont livrés par autre chose. Et le télétravail, c'est de la livraison. C'est du travail livré à domicile, qui est en général un temps partiel. Rares sont les télétravailleurs en plein temps, même si ça existe. Donc ça veut dire que le modèle dans lequel on est, c'est une augmentation de la vie locale. Parce que la plupart des télétravailleurs, ils préfèrent aller travailler dans un tiers-lieu, dans un coworking, que de travailler à la maison. Donc au fond, se créent des lieux dans les villes, dans les petites villes, dans les bourgs. Regardez, moi j'ai une librairie par semaine qui demande à s'immatriculer dans ma maison d'édition. Vous voyez, c'est un indicateur culturel. En soi, c'est rien une librairie par semaine. Donc, il se passe là un nouveau rapport à l'espace. Moi, je dis local et livraison. C'est un peu le couple qui est en train de se construire et qu'il faut favoriser.
Et la relocalisation aussi, ça fait partie vraiment d'une tendance qui va s'amplifier ?
Mais si vous voulez, c'est pour ça, ce qu'on a vu, c'est que depuis Reagan et Thatcher, on avait dit les chaînes de valeur, c'est le principe unique. C'est-à-dire, si c'est moins cher, quand ça vient de loin, ça passe d'abord. Bon, et on a fait ça. Résultat, les objets se sont mis à ne rien valoir. Mon téléphone portable, il vaut quelques centaines d'euros, alors que c'est une machine absolument extraordinaire. Et sauf que du coup, les ouvriers de nos pays ont plus de boulot. On leur dit, mon pauvre ami, c'est dommage, mais un Chinois, il fait ça pour 4 fois moins cher que toi. Donc, bon.
Mais c'est ce qu'a révélé la pandémie, justement, l'ineptie d'emmener les industries, les entreprises très loin de chez nous.
Certaines industries, parce que ça fait aussi le développement. Si vous étiez au Vietnam après la guerre, heureusement qu'il y a du développement économique au Vietnam, parce qu'ils ont subi 2 guerres, une des Françaises, une des Américains. Donc, faut faire très attention. Mais les nouvelles innovations ne vont pas être effectivement loin comme ça. Regardez les batteries électriques, etc. Et puis surtout, on s'est rendu compte, on avait oublié le risque de pandémie et de guerre. Et donc, on avait un seul fournisseur. Mais c'est absurde. Et toutes les entreprises sont en train de faire quoi? Avoir un fournisseur en Asie, un fournisseur en Afrique, un fournisseur en Europe. Donc, parce que les pandémies, il y en aura d'autres, parce que les guerres, il peut y en avoir. La paix du monde, on avait l'impression qu'elle était définitive. Non, elle n'est pas définitive. Donc, tout ça, ça entraîne des nouvelles stratégies. Et donc, je pense que les ouvriers et les paysans, en ce moment, ont le sentiment qu'ils sont à nouveau dans le coup, qu'on va s'en occuper. Et ça, c'est très important pour redonner confiance à ces milieux populaires qui étaient littéralement désespérés.
On parlera de l'agriculture avec vous tout à l'heure.
Sur Instagram, on a plusieurs messages. Jean-Vierre Thierry nous écrit, on a un nouveau regard très positif sur les territoires grâce au confinement dans les grandes villes. Cynthia écrit, besoin de verdure et de local. Et Will, lui, écrit qu'il faut se réapproprier, réapprendre à faire par nous-mêmes pour une société sobre et heureuse. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que 5 milliards d'êtres humains en même temps ont réussi à faire ce geste dont vous parliez, il faut quand même rappeler que c'était sous la contrainte, ce
tout
sont les États. Donc est-ce que de nous-mêmes, pour reprendre les mots de Will sur Instagram, est-ce que de nous-mêmes on aurait été capable?
Mais non, mais les sociétés sont organisées par du politique et par du droit. Les sociétés, c'est pas des grandes foules de gens qui décident comme ça. Mais si vous voulez, prenez un exemple tout simple, masque. Ben, je pense que dorénavant, quand il y aura une épidémie de grippe, on aura des masques. Alors que quand on voyait un Asiatique, un Chinois, un Japonais à Paris avec un masque, on avait presque l'impression qu'on s'en moquait. Ou qu'il avait peur qu'on lui crache dessus, quoi. En gros, le type, il nous méprisait. C'était, vous voyez, comme ça, j'ai complètement changé. Je prends que cet exemple, c'est un élément parmi d'autres. Est-ce qu'on va s'embrasser aussi facilement? Moi, quand j'étais jeune, on s'embrassait pas. Si les filles et les garçons, on n'embrassait pas les garçons entre eux. Puis à un moment, les garçons s'est mis à s'embrasser. Peut-être qu'on arrêtera. Mais tout ça, c'est des gestes culturels qui changent. Et en plus, surtout, on a pris l'habitude de regarder les autres. Vous pouvez discuter avec n'importe qui. Oui, les Coréens ont été très bons. Les Italiens, au début, ils n'étaient pas terribles. Les Allemands étaient meilleurs. Regardez le modèle allemand. Il était très décentralisé. C'est comme ça que les Américains l'ont voulu après 45. Il a fallu le recentraliser un peu. Et nous, première période, on était nuls. Deuxième période, les régions et les villes sont venues au soutien du gouvernement, coordonnées par les régions. On a été assez efficaces. Donc on a un peu décentralisé. Vous voyez, c'est ça qu'il faut regarder, c'est tous ces mouvements en cours.
Jean-Vierre, vous restez avec nous car le sujet de Camille Passauvert va vous intéresser puisqu'il est déjà 14h31.
France Inter. La Terre au carré.
Et à vous, Camille Cronier.
Et je vous annonce que la Startup Nation est aussi dans les champs désormais, et oui.
Bonjour, bienvenue chez Hectar. Je suis propriétaire en association avec Xavier Niel. Donc là, autour de vous, vous pouvez voir des anciens corps de ferme qui étaient abandonnés depuis les années 80 et où on a décidé de créer un écosystème, puisqu'il y aura à la fois un lieu de formation, une grande ferme en transition et des espaces de coworking et de séminaires.
C'est Audrey Bourolo qui parle, ancienne conseillère à l'Élysée d'Emmanuel Macron, présentée aussi partout comme ancienne du lobby du vin, et qui a donc acheté pour la modique somme de 18,5 millions d'euros, 51% elle et son mari, 49% pour le milliardaire et patron de Free Xavier Niel, acheté donc un gigantesque domaine dans les Yvelines, en pleine vallée de Chevreuse, le domaine de la Boissière, présenté aujourd'hui comme, je cite, le plus grand campus agricole du monde. Il vient d'ouvrir début septembre. Et pour compléter l'équipe, il y a Francis Nappé, fondateur, cofondateur de Blablacar, qui a déménagé de Paris pour devenir directeur général de ce campus baptisé Hectar.
C'est une ferme polyculture-élevage. Donc en fait, on a des grandes cultures, de l'élevage et du maraîchage. Aujourd'hui, Hectar, c'est une ferme qui fait à peu près 600 hectares. Il y a 250 hectares de forêt. Et puis on laisse aussi...
Plein d'avions qui passent au-dessus. Là.
Il est bien gratiné celui-là. Hein. Ouais, il est bien désagréable.
Alors, il y a un aérodrome pas loin, hein, mais on entend aussi le cui-cui des oiseaux ou le meu des vaches, je vous rassure.
Ah, ben les voilà quand même. Voilà,
un troupeau de 60 normandes, sans cloche, mais bien équipé.
Vous voyez qu'elles ont des colliers qui sont des accéléromètres qui permettent de détecter leur mouvement en trois dimensions qui nous remontent de la donnée.
Alors, ce que m'explique Julie Renoux, vétérinaire consultante à Hectar, c'est déjà utilisé par certains éleveurs. Hein, ces colliers qui remontent des données sur la température des vaches, sur un petit peu ses mouvements, etc. La tech, donc, au service de l'agriculture. L'un des credos à Hectar. D'ailleurs, on croise même des codeurs comme Mathieu Ougali de l'école 42 de Xavier Niel.
Bah, je fais un nouveau programme, c'est l'intelligence artificielle axée sur l'agriculture.
On sort la tête de l'écran, on est auprès de la nature. Ça change énormément.
Un mélange des genres étonnant, mais assumé comme une sorte d'échange de bons procédés. Ils travaillent sur des logiciels pour aider les agriculteurs dans leur quotidien. Enfin, agriculteurs, plutôt des chefs d'entreprise agricole. Écoutez Audrey Bourolo, la propriétaire.
Je voulais m'engager dans ce projet-là pour former la prochaine génération de chefs d'entreprise agricole. C'est un mot qui me tient à cœur. Et puis apporter des solutions en montrant qu'on peut réconcilier la tech, l'environnement et le social. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des entrepreneurs agricoles heureux, bien dans leurs baskets ou dans leurs bottes, et qui puissent redonner de l'emploi local dans les territoires.
Une vision qui ne plaît pas à tout le monde. Une centaine de personnes avaient manifesté en juin dernier à l'appel de syndicats agricoles, je le précise, pour dénoncer la vision libérale de la formation professionnelle, avec abandon de l'État, et d'une agriculture toujours plus productiviste. Une sorte de défense d'un modèle à l'ancienne où le privé n'a pas de place, et très loin surtout de la fameuse Startup Nation. Mais Hectare se défend.
Moi, je suis convaincue que chacun peut agir avec ses moyens, sa manière. Xavier Niel, il a recréé de l'emploi par l'école 42, il a fait des choses pour la Station F. Il est ici pour cette philanthropie utile, et on sait pourquoi on fait ce projet-là. Et entreprendre, c'est ça, c'est aussi accepter les critiques. Moi, je les accepte, mais je sais pourquoi je fais ce projet, et je le mènerai avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme.
Vu l'enjeu, le remplacement de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans, tous les moyens sont bons, estime le directeur Francis Nappé.
Il faut qu'on soit plein d'acteurs de plein de milieux différents à proposer des solutions pour que ça soit intéressant et que ça soit justement la fin d'un entre-soi ou en tout cas une nouvelle page qu'on essaye d'écrire pour adresser les enjeux de l'agriculture.
Et rendre également le métier plus attractif avec des outils pensés pour que l'exploitation, quelle que soit sa taille, soit viable, bien sûr, avec une charge de travail moins lourde, moins de pénibilité, et bonne aussi pour l'environnement. Ici, on prône l'ABC, l'agriculture bio de conservation. Le fondateur de Blablacar avoue qu'il n'y connaissait rien, et moi j'avoue qu'il a encore quelques progrès à faire sur les champs partout dans le domaine.
Là à droite, il y a quoi par exemple?
J'ai pas tous les trucs en tête. Il y a une équipe agri vraiment qui s'occupe de ça.
Bon, mais distinguer le quinoa de l'épeautre, du sarrasin, du chanvre ou du chia, il y a des champs de tout ça là-bas. C'est pas son rôle en fait. Francis Nappé est là pour créer un nouveau modèle.
Je veux mettre mon énergie et toute mon intelligence au service de la transition écologique. Là, c'est sur l'agriculture. Avant, c'était sur le transport. De toute manière, on gère les mêmes fondamentaux, l'économie, le social et l'environnemental. Ce sont les mêmes ingrédients qu'on utilisait chez Blablacar et c'est exactement ce qu'on met sur la table chez Hectare.
Réussite incontestable de Blablacar aujourd'hui, mais est-ce qu'elle sera la même au chapitre agriculture? On demande à voir. Objectif de ces formations qui ne comprennent aucun enseignement technique au passage, mais des stages éventuels dans des fermes amies. 2000 apprenants, on dit apprenants chez Hectare, 2000 apprenants par an, aussi bien des jeunes pour créer des vocations que des agriculteurs en transition ou des gens en reconversion. Dans les 50 qui ont déjà commencé, il y a par exemple des militaires ou des kinés. Le tout entre 5 semaines et 1 an et gratuitement puisque le mécénat finance. Donc on a atteint de voir aussi quand même la part et le rôle des géants de l'agro-industrie dans ce projet. Prometteur peut-être, mais qui en tout cas ne laisse pas indifférent.
Merci beaucoup Camille Cronier, Camille Passauvert. C'est à réécouter ce reportage sur franceinter.fr.
Jean Viard, cette place que prennent certains acteurs du privé, là en plus c'est pas n'importe lesquels, c'est Xavier Niel en l'occurrence, dans une formation comme ça pour l'agriculture, est-ce que c'est normal, si je dois le formuler?
Moi je connais André Borello, parce que je la suivais déjà quand elle était dans le vin, etc. Donc moi je crois que si vous voulez, soyons ouverts aux innovations. Je veux dire, ces gens essayent quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va le répéter partout pareil. Bon, ils essayent, en plus il y a un enjeu énorme de rapport entre agriculture et numérique. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui suivent leur champ sur leurs ordinateurs. Parce que au lieu de traiter 10 hectares de vignes, vous voyez que là-bas dans le coin il y a un démarrage d'une maladie, vous allez traiter tout de suite. Donc vous voyez, c'est un rapport différent aux soins. Parce qu'on parle toujours par exemple des produits chimiques qu'on est en train de supprimer. Mais la première question c'est si déjà on en met que 10% parce qu'on aura, au lieu de traiter tout, traiter que ça, on aura gagné quelque chose. Donc il faut énormément d'innovation. La France est un pays très corseté, il faut les diplômes. En Allemagne, 30%...
Mais là, il n'y a pas de diplôme, justement. C'est pas diplômant.
Il y a un brevet à la fin, formation...
Non, mais je veux dire, après, on a un énorme problème de renouvellement. Il faut dire les choses comme elles sont. Il nous reste 440 000 fermes, il y en avait 3 millions en 1960. Donc on a supprimé. Donc nos fermes, naturellement, je dirais que ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont mangé les cousins, les cousines et les voisins. Donc c'est un groupe social, culturel en restriction, que j'aime beaucoup, je le fréquente, j'étais au congrès de la FNSEA, etc. Mais je pourrais intervenir sur l'écologie. Mais après, on a besoin de nouveaux systèmes innovants, c'est évident. D'ailleurs, un des gros problèmes, c'est le foncier, en réalité, c'est l'accès au foncier. La majorité des jeunes dans les écoles d'agriculture sont des jeunes filles des villes non issues de l'agriculture. Donc il y a un mouvement vers ça. Donc si vous voulez, tout ça fait qu'il y a un bouleversement technologique. Dans les villes, on se dit petite exploitation, vache de l'Aubrac, exploitation bio, alimentaire, etc. Et c'est très bien. Enfin, j'adore l'Aubrac et j'adore les...
Donc Hectare, ça vous plaît? concrètement.
C'est, oui, parce que si vous voulez, c'est un projet qui m'intéresse, de regarder qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils trouvent quelque chose. Au début, on a commencé à créer sur BlaBlaCar, on a créé sur Airbnb, on a basculé dans un monde numérique. Et si vous voulez, on dirait chaque fois, on dirait, ah non, c'est pas bien. Alors, ça veut se réguler. Regardez Airbnb, on voit bien que si c'est pas régulé, ça pose des problèmes. Mais en soi, c'est une invention géniale. Je pars de chez moi, je loue ma pure, je gagne des sous. C'est quand même fantastique. Et en plus, quelqu'un est logé dans un endroit où il peut venir en famille. Parce que les hôtels avaient un peu oublié qu'on a tous des enfants et qu'on se déplace pas tout seul. Bon. Donc, il y a une innovation. Et là, c'est un élément d'innovation. Essayons plutôt de voir ce que ça crée. Qu'est-ce qui advient des gens? Est-ce que ces gens qui sont là, ils trouvent du boulot derrière? Est-ce qu'ils vont après avoir les capacités à faire des emprunts? Mais moi, je pense que si vous voulez avenir l'agriculture, c'est d'arrêter d'acheter le foncier. Toutes les générations, les paysans se ruinent de génération en génération à acheter le foncier. Rappelez-vous ce film merveilleux qui avait d'ailleurs pas intéressé les Parisiens de cette histoire de cet agriculteur qui se suicide. En province, ça a été un énorme film. Dans les grandes villes, ça n'a intéressé personne. Et pourquoi il était ruiné? Notamment parce que son père, le vendait d'exploitation très cher. Vous voulez, cette question-là est essentielle. Soyons ouverts aux innovations qui vont nous faire réfléchir.
Allez, si vous souhaitez réagir au propos de Jean-Vierre et à cette école d'agriculture Hectare, eh bien vous pouvez le faire sur la note vocale de l'appli France Inter ou alors sur le répondeur au 01 56 40 45 45. C'était Métronomie sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est en pleine crise. L'appauvrissement des paysans ne cesse d'augmenter. La politique appartient aux nobles, ce qui agace profondément les commerçants et artisans en soif de pouvoir. Qui plus est, les pauvres demandent plus d'égalité. Pour préserver le calme et l'unité de la cité, le système est réformé. Une première dans l'histoire, la démocratie est en marche. Le principe de ce nouveau régime repose sur la participation du peuple aux décisions. La cité organise environ 30 fois par an des assemblées ouvertes et pouvant contenir jusqu'à 6000 citoyens. Ici, on débat collectivement pour ratifier les lois, voter le budget, décider de la paix et de la guerre. Dans l'hémicycle, tout citoyen athénien a droit à la parole. Une indemnité journalière est donnée aux plus pauvres pour compenser les jours de travail perdus. Chacun peut participer avec la même importance, quel que soit son niveau social.
Extrait du film « J'ai pas voté la démocratie athénienne ». Est-ce qu'il faudrait y revenir, Jean Viard, pour justement illustrer le débat auquel vous faites référence?
Il me semble que ça excluait quand même les femmes et les esclaves. qui étaient quand même les deux groupes dominants.
On peut améliorer les choses quand même.
On peut améliorer les choses. Enfin, les esclaves ont été en plus ou moins supprimés. Donc ça, c'est la première chose, si vous voulez, qu'il faut bien dire. Mais je crois que c'est vrai que notre démocratie est gravement en danger, si vous voulez. Elle correspondait à la révolution industrielle, à un mode d'organisation. Les gens appartenaient à des grands collectifs de travail, à des collectifs idéologiques, etc. Et donc, on se reconnaissait dans les gens qui se présentaient encore en 80, les gens de gauche. D'un coup, ils étaient heureux, pas tellement qu'ils étaient pour ce qui se faisait, mais leur monde avait gagné. Et puis après, c'était les autres, etc. On n'est plus là-dedans. On est dans une société d'individus où, au fond, la politique, c'est des associations, c'est les ONG, c'est les entreprises, c'est aussi le politique, le local, beaucoup plus d'ailleurs que les communes, les régions.
Les débats, c'est les citoyens qui doivent s'en emparer ou ça doit être un grand débat national
Je pense que de plus en plus, ce sont les médias qui forment les groupes sociaux. Vous avez les gens du monde de France Inter, France Culture. Vous avez les gens, j'allais dire, de plus en plus de CNews. Vous avez, comme avant, il y avait les lecteurs de l'Humain et les lecteurs de Libé. Donc il y a des grandes poches culturelles comme ça. Regardez quand des grandes émissions de télé comme les vôtres ou des grandes comme radio, des grandes émissions de télé comme C'est dans l'air, comme qui sont, il y a 1, 2, 3 millions de personnes qui écoutent. Ce sont d'énormes machines intellectuelles. Et puis vous avez aussi les réseaux sociaux très agressifs, etc. Donc si vous voulez, tout le champ de la pensée se restructure. Alors, mais qu'est-ce qu'on disait dans les confessionnaux? Vous voyez, quand on dit les rumeurs, oui, qu'est-ce qu'on disait dans les confessionnaux? Est-ce que c'était pas aussi? Vous voyez, on dirait qu'avant c'était parfait. Je suis pas sûr. Est-ce que les convictions idéologiques, quand les gens descendaient manifester, c'était la fête? Quand on était 1 million dans les rues, c'était génial. Mais de quoi on parlait réellement? Vous voyez, c'est compliqué de voir les évolutions.
Vous dites le champ de la pensée se restructure. Est-ce que, à l'époque à laquelle nous sommes, vous avez évoqué les réseaux sociaux, c'est pas le contraire? Est-ce que ça ne se déstructure pas, justement, avec tout et son contraire sur les réseaux sociaux et les gens qui, justement, s'informent avec des choses qu'ils ne vérifient pas? Et c'est une plaie aujourd'hui.
Oui, mais est-ce qu'avant c'était très différent? Faut faire très attention, on compare avec quoi?
Qu'il y ait
des réseaux sociaux qui travaillent
en
boucle. C'est-à-dire que clairement, les gens adhèrent à des réseaux parce qu'on dit exactement ce qu'ils pensent. Donc ils ne sont qu'avec des gens qui leur ressemblent. Moi, quand j'étais jeune, un lecteur de l'Humanité, j'aime aller lire le Figaro. Donc si vous voulez, ou l'inverse, enfin j'attaque pas l'Humanité. Donc je veux dire, faut faire attention à cette espèce d'idée. Je vous rappelle que la gauche a refusé de donner le droit de vote aux femmes en 36 parce qu'elles étaient trop influencées par les curés. Donc je veux dire, vous voyez, il faut faire tout ça. On dirait que la gauche, c'est toujours le bien, etc. Le droit de vote, c'est un bon exemple quand même. C'est pas la gauche qui leur a donné, ni au moment du cartel des gauches, ni en 36, alors qu'ils l'avaient en Turquie. Donc vous voyez comment c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un problème de régulation du monde numérique, de régulation des GAFA et de leur pouvoir. Comme on a eu un problème sur la loi sur la presse au 19e. Il y a un problème de régulation, de loi. C'est le droit qui doit réguler. Moi, quand je vois Twitter interdire à un président des États-Unis de tweeter, je suis scandalisé. Pas que cet individu-là, mais c'est au droit de décider. C'est pas une entreprise privée, si vous voulez. Qu'on prenne un arrêté juridique pour dire qu'il peut arrêter de dire ses conneries sur Twitter, je trouve ça génial. Mais qu'un entrepreneur privé puisse couper la parole à un président de la République, dans mon idée de la démocratie, ça me choque.
On va écouter la note vocale de Sébastien qui nous envoie ce message de Berlin.
Bonjour, Sébastien de Berlin. Alors moi, je souhaitais ajouter une petite note, une petite parenthèse, parce que il existe aussi des villes qui présentent énormément d'avantages, beaucoup de nature. Je suis un bon exemple, puisque vivant à Berlin, je peux vous dire qu'ici, on a tout. On a des lacs magnifiques à 20 minutes de métro. On a des forêts somptueuses juste à l'orée de la ville. On a des rues larges, arborées. On a une possibilité de respirer, que j'ai jamais connu en France, en tout cas pas à Paris, ça c'est clair. Et puis dans d'autres villes françaises non plus, parce que les villes françaises ne présentent pas la possibilité d'aménager des espaces verts. Voilà, donc moi je voulais vous dire que c'est possible d'habiter en ville et d'avoir un sentiment de campagne très très souvent. Merci pour votre émission, à très bientôt, au revoir.
Voilà, un petit salut de Berlin, donc Sébastien, vous voulez réagir, Jean-Pierre, rapidement.
S'il y a autant d'espace à Berlin, c'est parce que la ville a été rasée en 45 et qu'effectivement du coup, c'était une ville rasée. Donc il y avait des décombres, on a construit autour. Donc c'est pour dire, mais après c'est vrai, moi j'adore Bruxelles parce qu'il y a ça, quand vous avez la Cambre, etc. et tout, vous êtes dans ce lien. Ça existe, Marseille, vous avez la mer partout. Vous avez 32 km de rivage, c'est à l'intérieur d'une ville. Vous avez un parc national dans une ville, etc. Donc, si vous voulez. Mais j'entends très bien ce qu'il dit. Mais après, la question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est tous bi. C'est-à-dire, les gens, on fait pas un choix entre la ville et la campagne. On est des deux côtés. Les gens des villes sortent des villes, le week-end, les vacances, pour leur retraite. Et ceux qui quittent la ville en ce moment, rentrent dans la ville. Regardez Paris, 2 millions d'habitants, 700 000 actifs qui habitent dans Paris. 1 million de salariés qui rentrent tous les jours. Et 2 millions, en plus, qui rentrent pas tous les jours, la foule. C'est-à-dire que dans une ville comme Paris, le problème, c'est que le pouvoir politique est donné à ceux qui dorment. et pas à ceux qui travaillent.
C'est pour ça que vous dites qu'il faudrait voter deux fois, finalement,
oui, parce
municipal,
que quand on a donné
pour ceux
de
qui
vote,
habitent une ville et ceux qui y travaillent.
On considérait qu'étaient acteurs du vote ceux qui produisaient de la richesse. Et petit à petit, c'est ceux qui ont un compteur EDF qui sont devenus la base du modèle démocratique. Vous croyez que Paris, si le million de salariés qui rentrent tous les jours avait aussi le droit de vote, vous croyez qu'on aurait les mêmes politiques d'aménagement de l'espace? Mais pas du tout. Donc c'est une vraie question. Une ville, c'est à la fois un moteur et un cadre de vie.
Ça fait partie de vos propositions, hein.
Absolument.
C'est quasiment un programme politique, vous qui avez fait de la politique. Sous quelle bannière, d'ailleurs, vous pouvez nous le rappeler?
Oh, j'ai travaillé, je me suis battu pour Jacques Duclos en 69.
Non, mais là, la dernière élection,
je me suis battu, j'ai été président, oui, avec
sous
le président Macron.
Vous étiez candidat aux législatives en
2017. Il faut le dire, parce que sinon, il y a toujours 20 personnes qui vont le dire sur Internet.
Francis, par exemple, qui nous envoie un message pour nous le dire. Marc, lui, sur l'application France Inter, nous écrit un message un peu ironique. Il nous écrit: merci au télétravail. Mon entreprise m'a dit, puisque vous télétravaillez à 49 km de l'entreprise, eh bien votre travail peut être fait par un Roumain qui coûtera 10 fois moins cher. Merci la pandémie.
C'est un des risques, il a raison. Sur certains postes, c'est une vraie question. Oh, elle était déjà là, parce que le téléphone, quand on était appelé par des systèmes de renseignement, on entendait bien que les gens, ils étaient à Dakar ou ils étaient loin. Donc, le monde numérique est un monde sans frontières. C'est pour ça qu'il est important que les entreprises continuent à réunir les salariés régulièrement. Pour qu'on soit, on est une entreprise, et donc on doit y venir, mettons, deux jours par semaine. C'est-à-dire, le collectif de travail doit être protégé. D'abord, c'est le lieu de l'innovation, de l'intelligence, etc., de la rencontre, de l'amour, etc. Mais aussi, pour ça, il y a un enjeu majeur pour que les gens habitent, disons, à une ou deux heures de leurs sièges principaux, et pas à 3000 km.
J'en viens à vous décrivez donc le bouleversement et cette double révolution écologique et numérique. Mais lorsqu'on s'intéresse de près au numérique, on l'a fait récemment dans l'émission, on voit aussi tout le potentiel polluant de nos activités technologiques. Est-ce qu'on va pouvoir concilier ces deux révolutions, en fait, qui paraissent presque antagonistes?
Vous savez, ce qu'on a découvert pendant cette pandémie, depuis la guerre, quand on voulait voir quelqu'un en dépenser du pétrole, voiture, train, avion. Avant-guerre, c'était pas vrai. La plupart des gens n'avaient pas de voiture. Il y avait le train et le vélo, pour l'essentiel. Il y avait les bourgeois qui avaient des voitures. Bon, nous, d'un coup, si on veut voir quelqu'un aujourd'hui, d'abord, on le contacte par numérique. On se fait un zoom ou on se voit. Quand on travaille par Internet, on se voit. Donc, le numérique est devenu le premier lien entre les hommes.
Mais c'est aussi polluant. Donc, comment on mène une révolution écologique avec du numérique?
Mais c'est peut-être moins polluant que l'automobile, parce que ça veut dire que les gens, par exemple, s'ils vont en ville qu'une fois par mois, d'ailleurs, ceux qui vont en ville, les travailleurs, c'est des places en train, en réalité. Ils rentrent dans les villes. C'est pour ça que ça se diffuse le long des voies de chemin de fer. Bon. Non, le bilan, on le fera. Le numérique, évidemment, qui pollue aussi. Mais il pollue moins que les déplacements automobiles. Donc, le problème, c'est que je pense que ça améliore. Mais après, il va falloir étudier les choses en détail. Et c'est, si vous voulez. Mais je crois qu'effectivement, il faut pas partir de l'idée. Toute activité humaine est polluante. Le problème, c'est est-ce qu'elle pollue dans ce que la Terre peut supporter ou est-ce qu'elle déplace cette zone? Les gens qui vous disent qu'il faut aucune pollution, le monde est impossible comme ça. Et puis, quand on va dans des pays pauvres, ce discours, il est pas acceptable. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est dans la capacité de pollution que la Terre peut supporter.
Jean Viard, vous êtes notre invité. Encore des messages pour vous de la part des auditeurs sur franceinter.fr. On vous les transmet dans un instant après Laura Cahen.
J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant la fille du temps mauvais, la colère à
Désarmée, c'était Laura Cahen sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Avec le sociologue Jean Viard, et une dernière question pour vous.
Dominique sur Facebook qui vous pose cette question. Jean Viard, êtes-vous allé dans les cités? Que faites-vous des cités où il y a des gens qui, pour qui rien n'a changé et où les choses se sont même aggravées?
Vous savez, j'ai été élu dans le quartier le plus pauvre de France, à Marseille, dans le 2e et le 3e arrondissement. Donc je pense que j'ai une certaine connaissance de ces populations. J'ai travaillé pour mes études dans le quartier nord de Marseille.
Révolution pour ces personnes-là, voilà. Ou pas?
Non, mais si vous voulez, pas de la même manière. Il faut bien voir que la question, c'est comment on le fait pour tout le monde. C'est pour ça que je dis, il faut s'occuper du télétravail, c'est qu'une partie de la société. Il faut s'occuper du monde industriel, ouvrier, en gros et agricole, il est en montée. Et puis il y a tous les gens du service et du care qui ont travaillé, qui sont souvent dans ces quartiers, pendant toute la pandémie. Ceux-là, ils sont mal payés. Et ceux-là, ils n'ont pas la priorité du logement près de là où ils travaillent. Je dis, il faut augmenter leur salaire, ce qu'on a commencé à faire dans l'hôpital. Et surtout, il faut bouleverser le logement social pour que le logement social soit lié au spatial. Vous êtes infirmière dans un hôpital, vous avez droit au HLM qui est en face et pas à l'autre bout du territoire.
Ça s'appelle La révolution que l'on attendait est arrivée, pour aller plus loin, le réenchantement du territoire. C'est aux éditions de l'Aube. Vous en êtes l'auteur, Jean Viard. Merci beaucoup d'être venu dans La Terre au Carré. Et amis auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser vos messages et vos réactions au
01 56 40 45 45, 24h sur 24.
Voilà, et normalement nous devrions avoir pur, mais nous ne l'avons pas. Mais c'est bien, du coup, on a plus de temps pour discuter avec vous, Jean Viard, puisqu'on devait avoir pur avec nos partenaires de France Télévisions, mais malheureusement, il n'est pas rentré dans la boîte, donc on ne pourra pas vous le diffuser.
Voilà,
exactement. Comme vous rencontrez et qu'on a encore un petit peu de temps pour discuter, les populations, les citoyens en ce moment, est-ce qu'il y a cette conscience finalement de ce bouleversement-là, encore une fois, que vous décrivez dans le livre, et que tout le monde a envie de participer au fond à ce changement?
Moi je vais vous dire, ce qui me surprend, c'est que mon discours de dire au fond on n'a jamais eu quelque chose d'aussi humaniste, 5 milliards d'hommes ont fait la même chose, ça nous donne une meilleure chance de nous en sortir, une meilleure chance, j'ai pas dit que c'est sûr, ça dépend des actions, des combats, etc. C'est incroyable comme les gens écoutent ça avec passion. Je suis même des fois un peu surpris, vous voyez, parce que les gens, d'un coup, ils viennent me dire dans la rue, etc. Vous m'avez donné confiance, j'avais peur. Vous avez... Je me dis, attention, quoi. Mais je pense que, pour le moment, les gens entendent ça. Même s'il y a dans la société un double mouvement, il y a un mouvement de radicalité, violent, très fort, qui était soutenu le mois dernier, on va dire Madame Rousseau et Monsieur Zemmour, sur des champs complètement différents. Mais on voit bien que les radicaux, les gens qui disent, il faut que ça change tout de suite, monte, et donc là il y a une demande, et donc la société peut être violente.
Vous mettez Madame Rousseau et Monsieur Zemmour sur le même plan?
Comme phénomène social de radicalité, c'est-à-dire 47% des Français disent il faut une société, des conflits politiques beaucoup plus radicaux. Et ils sont dans tous les âges et dans tous les milieux sociaux. Et donc on le voit là s'exprimer dans des camps qui n'ont rien à voir. Je ne dis pas du tout que Mme Rousseau a à voir avec M. Zemmour. Je dis simplement que sur l'extrême droite et sur ce qu'on pourrait appeler l'extrême gauche, écologique en tout cas, il y a un désir de rupture qui est monté très fort. Et ce n'est pas qu'ici. Donc si vous voulez, c'est ça que je dis. Et en même temps, c'est toutes ces questions politiques, comment est-ce qu'elles vont se résoudre? Moi je crois qu'on a ouvert une nouvelle période. On était en fin de période. Mais après, il se peut que ça devienne de la violence. Les gilets jaunes, on peut inventer un autre mode de conflit, etc. Je veux dire, mais la question, ça va être quel récit on fait de cette pandémie et comment on en éclaire les aspects positifs avec la solidarité pour les souffrants.
Et ces changements, ils vont se faire justement à l'échelle du territoire, c'est-à-dire que le local a vraiment un rôle hyper important à jouer là-dessus, et il faut que l'État aussi fasse confiance.
Mais le local a un rôle essentiel à jouer là-dessus, parce que nos vies sont de plus en plus locales, même si on peut changer de local. Avant, je dirais qu'on était né dans un village, on y mourrait. Il y a 10% des Français qui meurent dans le village où ils sont nés, et 50% des gens vivent pas dans leur territoire de naissance, leur département de naissance. Donc la société est très mobile. Mais là où on est, on a envie d'une vie locale, des gens qu'on connaît à la sortie du collège, au marché, etc. Donc c'est là-dedans qu'on est rentré. On vit une tragédie créatrice. Et cette tragédie, il faut l'éclairer comme tragédie, compris parce qu'il y a eu des dizaines de millions de morts, peut-être sans doute des dizaines de millions, mais aussi par l'aspect créatif et par le bonheur qu'il peut donner. Il faut les deux côtés, sinon on perd tout et c'est trop dangereux, sinon ça renvoie à l'affrontement.
Merci beaucoup Jean Viard, grâce à vous on a pu combler les 2 minutes 30 qui tout d'un coup nous ont été offertes. C'était parfait, merci beaucoup. Ce livre, donc, La révolution que l'on attendait est arrivée, et pur, du coup on l'entendra demain à la fin de l'émission.